Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio 1, sauvage.
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, il est 6h pile, vous êtes bien sur Syllab. C'est 6h avant minuit. Ce matin, à deux pas de l'Assemblée nationale, les bénévoles de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, ont distribué gratuitement pâtes, conserves, fruits et légumes à plus de 500 jeunes. Ils et elles sont de plus en plus partout en France. Ici aussi, à l'Université de Rennes, on voit les longues files chaque semaine. Parce que oui, les étudiants et étudiantes de notre pays galèrent de plus en plus à se nourrir et à manger correctement. Au même moment, un nouveau médicament anti-obésité est commercialisé en France, le Wegovy, un médoc nouvelle génération, un stylo injectant une hormone intestinale, simulant la sécrétion d'insuline et procurant une sensation de satiété. Un médoc nouvelle génération qui n'est pas remboursé. Le prix pour se soigner entre 9 et 12 euros par jour pour les 14% de Français et Françaises touchés par l'obésité. Ne pas se nourrir ou mal se nourrir, telle semble être la question pour les jeunes de notre pays. Je vous laisse avec ça, tout de suite, le flash de Jeanne. Et Israël continue et amplifie son offensive au Liban, Jeanne.
L'État hébreu concentrait jusque-là ses attaques dans le sud et l'est du Liban. Israël a déclaré aujourd'hui continuer son offensive en s'attaquant au côté ouest du pays. Durant la nuit, plusieurs bombardements ont eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth, avec ou sans message d'évacuation pour les civils. L'armée israélienne annonce aujourd'hui avoir tué un des hauts responsables du Hezbollah, Souheil Hussein Husseini. Jusqu'à ce jour et selon le journal L'Humanité, les bombardements menés par Israël ont causé la mort de plus de 2000 personnes au Liban et ont obligé 1,2 million de personnes à se déplacer.
Toujours pas de réponse des juges de la Cour pénale internationale au mandat d'arrêt concernant le Premier ministre israélien.
Le procureur Karim Khan a déposé il y a de cela plus de 4 mois plusieurs mandats d'arrêt. Ils sont au nom du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, de son ministre de la Défense Yoav Gallant et de 3 leaders du Hamas, Yahya Sinwar, Ismaël Haniyeh et Mohamed Deif. Ces deux derniers sont morts dans des bombardements causés par Israël. D'une certaine manière, cela remet en cause la justice et le droit international, s'alarme Johan Soufi, un avocat en droit international. Dans les lignes du journal Mediapart, l'avocat met en avant la différence de temporalité qu'il existe entre la mise en place du mandat d'arrêt de Vladimir Poutine lors de son invasion militaire en Ukraine et celle des dirigeants responsables des massacres à Gaza.
Et c'est la première motion de censure à laquelle le nouveau Premier ministre doit faire face.
En effet, le gouvernement Barnier est pour la première fois confronté à une motion de censure. Celle-ci déposée par l'opposition, et plus particulièrement la gauche. Selon la coalition des partis de gauche à l'hémicycle, le résultat des législatives n'a pas été respecté. Le Rassemblement national n'a pas appuyé cette motion de censure. Un signe pour la gauche que le parti d'extrême droite ne souhaite pas voir ce gouvernement tomber. Et c'est certainement cela ici qui se joue, plus qu'un véritable renversement. L'Union des gauches, en déposant cette motion de censure, pouvait se douter que le RN ne la voterait pas à leur côté. En revanche, cette certitude peut permettre de mettre en lumière le positionnement du parti de Marine Le Pen.
Un appel à hisser des drapeaux palestiniens dans les universités françaises.
La semaine dernière, le ministre de l'Enseignement supérieur, Patrick Hetzel, a fait diffuser une circulaire adressée aux présidents et présidentes d'universités. Cette dernière appelait à veiller au maintien de l'ordre public. Dans cette circulaire, il indiquait être contre des prises de position politiques au sein des établissements universitaires. Selon lui, elles vont à l'encontre des principes de neutralité et de laïcité du service public de l'enseignement supérieur. Jean-Luc Mélenchon a répondu au ministre sur la plateforme X. L'insoumis a notamment dit qu'à l'université, on parle d'adultes majeurs citoyens. Et il a poursuivi en disant qu'il recommande qu'à partir du 8 octobre, on mette des drapeaux palestiniens partout où on peut, de manière que cette personne, comprenez le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, n'ait pas le dernier mot. Ici, à l'Université de Rennes 2, c'est l'association L'Union Pirate qui a pris l'initiative de faire flotter les couleurs de la Palestine en haut du toit du bâtiment Erev. Et à Rennes, ça fait 8 mois que des fusillades se multiplient et que les problèmes entre les dealers deviennent nos problèmes.
Dans 2 jours, ça fera officiellement 8 mois que Rennes est devenue le théâtre d'une rivalité au sein des réseaux de narcotrafiquants. Aujourd'hui, on peut recenser 10 de fusillades dans 6 quartiers différents. Tout ça de mi-mars à début octobre 2024. Armes à feu et armes blanches ont fait 4 blessés et 1 mort. Ces règlements de compte escaladent en violence et inquiètent les autorités, mais aussi les riverains. Une mère témoigne à Ouest France avoir interdit à sa fille qu'elle sorte du côté de la place Sainte-Anne et de la rue Saint-Michel. Cette rue, communément appelée rue de la Soif, est la scène de la dernière fusillade qui a lieu dimanche dernier vers 3h45 du matin. C'est également un point de deal connu des services de police. Un commerçant de la rue de la Soif interrogé par Ouest France déclare que ça rassure de voir du bleu, mais ils ne font que passer. La peur continue de s'installer et un habitant de Morpa, un quartier ayant subi 4 fusillades en 2 mois, se dit terrorisé du jour où quelqu'un se prendra une balle perdue. Jusqu'ici en pleine nuit, les fusillades peuvent maintenant arriver en plein jour. C'est le cas de celle du lundi 30 septembre dernier à Morpa. En effet, cet après-midi-là, certains des témoins de la fusillade étaient même avec leurs enfants lorsque c'est arrivé, selon Braise Info. De nombreuses enquêtes sont en cours au sein des services de police, tels que le DCOS, la Division de la Criminalité Organisée et Spécialisée. Un policier rennais témoigne à Ouest France que l'ultra-violence présente à Marseille, Lyon ou encore Nantes a gagné Rennes. Hier matin, lundi 7 octobre, dans un communiqué de presse, la maire Nathalie Appéré s'est exprimée sur cette hausse de violence particulièrement inquiétante à Rennes. Une présence policière renforcée, l'augmentation des effectifs policiers, la maire de Rennes dit vouloir faire de la lutte contre le narcotrafic une priorité absolue. Plusieurs représentants de l'opposition restent sceptiques face aux paroles de Nathalie Appéré. La conseillère d'opposition, Carole Gandon, estime que la maire continue de minimiser la gravité de la situation.
Merci Eva. Et ils et elles sont partis de la Bouëxière, c'est pas très loin de chez nous. Laissez-nous vous présenter les Pécroutes, cette famille d'Ille-et-Vilaine composée des parents, Adèle et Manu, et des enfants, Agathe et Marceau, ont tout plaqué début septembre dernier. Leur maison vendue, ils ont pris un billet direction Le Monde, sur leur carte, 10 pays. Leur plan, faire découvrir le monde à leurs enfants et surtout changer d'air. À Silab, on suit les Pécroutes de loin, ou plutôt de près. On a d'ailleurs reçu quelques petites nouvelles de nos Bretons voyageurs depuis leur première étape, l'Indonésie. 4e nation la plus peuplée au monde et plus grand pays musulman de la planète. Cette contrée d'Asie du Sud-Est compte près de 18 000 îles. On laisse les Pécroutes vous raconter le reste.
Hello. Selamat datang.
Bonjour, bienvenue dans votre bungalow. J'espère qu'il va vous plaire.
Semoga kalian senang di sini.
Sur ces 18 000 îles, on en a fait 3. On a fait Java, Bali et Lombok. Java, c'était la première, c'était l'île qui est quand même la plus peuplée au monde. Et globalement, Java, on n'a pas vu beaucoup d'étrangers, on n'a pas vu beaucoup de touristes. C'était plutôt agréable de voir les locaux qui étaient toujours souriants, toujours disponibles pour nous. Et puis, ce qu'on a aimé sur cette île-là, c'est monter les deux monts, le mont Bromo et le Kawenjen, qui sont également des volcans qu'on a montés en famille et qu'on a vraiment adoré. Alors, ça reste compliqué parce qu'il faut se lever très tôt le matin, donc il faut réussir à lever les enfants. C'est quelques heures de montée, c'est vraiment très très joli et très agréable. Ensuite, on est parti à Bali. Bali, c'est clairement beaucoup plus international. C'est là où les gens viennent apprendre le surf, c'est là où les gens viennent faire de la plongée sous-marine. Globalement, là-bas, on se déplaçait en taxi. Et les enfants, ils ont aimé parce que bon, c'est un peu plus international, donc ils ont retrouvé un peu de lumière, un peu de fête, des choses comme ça. Ça n'a pas été l'île qu'on a préférée, nous, mais ça a été quand même. Et Lombok, c'était la 3e île qu'on a faite. C'était entouré de rizières. On a vraiment bien aimé. Les gens sont vraiment peut-être les plus accueillants même. Et puis, on est arrivé le jour de la fête de la nature à Tete Batu, pour être plus précis. Donc, on a été accueillis les bras ouverts. Ils nous ont payé à manger le midi, ils nous ont payé à manger le soir. On a fait les concerts aussi. Les enfants ont adoré, ils se sont éclatés. Alors, ce qu'on peut dire sur l'Indonésie, c'est que les Indonésiens sont gentils, clairement, tout le temps. Ils s'énervent jamais sur les routes. À aucun moment, on les a vus s'énerver. Alors, pourtant, des fois, on a vu des situations un peu compliquées.
J'ai aimé les gens vu qu'ils étaient très sympas avec moi et avec toute ma famille. J'ai pas très aimé parce qu'il y avait pas beaucoup de fruits.
Bah, les enfants, pour les leçons, ça se passe bien. Ils sont assez présents pour le faire. Ils sont assez actifs, attentifs. On a un rythme qui est assez régulier. Et ils sont sages à ce moment-là, ce qui est plutôt plaisant aussi.
Voilà, et on retrouvera les Pécroutes, nos Bretons voyageurs, très bientôt pour une nouvelle étape au Vietnam.
Et ce soir, au tambour, on pourra entendre et voir le duo Midget Jan.
Oui, c'est deux guitares, une électrique et l'autre sèche. C'est dans une ambiance douce et enveloppante qu'elle nous plonge. Claire Vaillé au chant et Mock à la guitare électrique se sont rejoints depuis leur univers respectif. Et cela pour notre plus grand plaisir. C'est en partenariat avec le Festival de musique contemporaine Autre Mesure. C'est ce soir à 20h au tambour. Et on reste dans un univers musical, le Festival du Grand Soufflet bat son plein. Et ce jusqu'à samedi. On fait le point sur l'édition en cours avec son programmateur Clément Le Goff.
Le Festival du Grand Soufflet, c'est historiquement un festival d'accordéon. Donc l'accordéon qui est un instrument très voyageur. Donc historiquement, au Grand Soufflet, il y a toujours eu des artistes du monde entier à venir. Et depuis 3 ans, moi j'ai à cœur de faire entendre aussi autre chose que l'accordéon et vraiment la modernité de cette scène des musiques traditionnelles et des musiques populaires dans le monde entier. Donc effectivement, la palette esthétique du festival est très large entre des formes très acoustiques dans le son et des sons beaucoup plus électro et actuels qu'on peut entendre dans la programmation. Comme on a des artistes qui sont engagés sur des territoires qui sont pas dans des liens de culture mainstream, forcément on a des artistes qui ont un engagement autour des langues, autour de la diversité culturelle et du vivre ensemble. Et donc, je pense que forcément, quand on voit l'actualité politique, ça a une résonance. Quand on a Christine Zayed, qui est une joueuse de kanoun palestinienne, qui vient jouer, forcément, c'est une valeur importante pour nous par rapport au conflit au Moyen-Orient. Quand on accueille Yassid Arab, voilà, on a vraiment tout un lien au Moyen-Orient qui est assez fort. Donc, ça fait partie des lignes qu'on peut voir sortir cette année.
Et on le rappelle, le Grand Soufflet, c'est donc jusqu'à samedi.
Grande nouvelle dans le monde de la BD, Riyad Sattou sort un nouvel album.
L'auteur Rennais, et oui Rennais, entre autres choses, puisqu'il a aussi grandi en Syrie. Il a écrit une nouvelle œuvre, donc, après l'Arabe du futur qui racontait de la rencontre de ses parents sur les bancs de la fac à son enfance entre le Moyen-Orient et la Bretagne, il sort un livre qui devrait encore plus nous rendre compte de son parcours, cette fois-ci du point de vue de son petit frère. La BD s'intitule « Moi, Fadi, le frère volé » et elle sort aujourd'hui.
On a trop, trop hâte de la lire. Merci Jeanne pour ce flash. Ce soir, c'est Aglaé qui a un invité.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Lunettes rondes, un père bleu marine, pas de doute, je suis bien avec Pierre-Henri Frogne, directeur des presses universitaires de Rennes. Bonsoir.
Bonsoir.
Tout d'abord, pour les personnes qui ne connaîtraient pas les PURs, donc les presses universitaires de Rennes, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors, les PURs sont une maison d'édition universitaire. C'est même la première maison d'édition universitaire publique de France en nombre d'ouvrages publiés par an. Nous publions en ce moment plus de 200 ouvrages par an. Et elle a la particularité d'être un réseau éditorial de 12 universités. L'établissement de rattachement administratif est l'université Rennes 2, mais il y a 11 autres universités, l'université de Rennes, ex-Rhénin, toutes les universités bretonnes, toutes les universités des Pays de la Loire, vous rajoutez La Rochelle, Poitiers, Orléans, Paris 13 et l'université de Lausanne. Et vous avez le réseau de 12 universités qui font des PURs une maison d'édition nationale, voire internationale.
À l'origine, c'était uniquement Rennes 2 qui était concernée par la maison d'édition et du coup...
Alors c'est une origine très lointaine, qui date de 1984, puisque nous fêtons en 2024 les 40 ans des PURs. C'est une origine très lointaine, et puis à partir de 91, Pierre Corbel est devenu son directeur, et il y est resté pendant 25 ans, et c'est lui qui a développé la maison d'édition pour en faire la maison d'édition des universités du Grand Ouest, et puis en 2004, faire un service d'action industrielle et commerciale, qui est une sorte de personne juridique qui permet à l'intérieur d'institutions publiques de faire une activité industrielle et commerciale. Et à partir de 2004, les purs se sont élargis pour devenir ce qu'elles sont, comme je l'ai décrit à l'instant.
Et donc ça fait 40 ans que la maison d'édition...
Ça fait 40 ans, oui.
Et est-ce que vous avez prévu quelque chose pour cet anniversaire ?
Alors oui, nous avons prévu plusieurs choses. Jeudi dernier, nous avons fait la fête aux purs, si je puis dire, la fête des purs au tambour à l'université Rennes 2. Il y a eu un discours du président de Rennes 2, un discours de ma part et deux tables rondes, l'une sur l'histoire des purs avec le président de l'université qui a créé les purs en 1984 avec Pierre Corbel, Cédric Michon, celui qui lui a succédé et moi-même. On a fait pendant trois quarts d'heure l'histoire des purs. Et puis en un deuxième temps, il y a eu une table ronde avec certains directeurs des collections des purs, il y en a une soixantaine, afin de raconter, de dire aux gens en quoi consiste la vie des purs, la vie des collections, du comité éditorial et des revues, puisque les purs non seulement publient 60 collections et 200 livres par an, mais publient aussi 12 revues universitaires.
Et en 40 ans, est-ce que vous auriez une idée des livres, du nombre de livres qui ont été...
Oui, le fonds éditorial des purs, depuis 40 ans, c'est 6 000 ouvrages, 10 000 auteurs. Et donc, effectivement, c'est un fonds très, très important qui porte sur l'ensemble des sciences humaines et sociales, de l'histoire à la géographie, de la philosophie à la littérature, à la théorie ou l'histoire de la littérature, de la psychologie à la géographie, etc., etc. Je ne vais pas faire la liste de ce vaste domaine.
Et est-ce que vous avez prévu des nouveautés pour les années ou les mois potentiellement à venir ?
Nous sortons en moyenne 5 nouveautés par semaine. Donc, effectivement, c'est un processus extrêmement, comment dirais-je, riche, dense. Et les programmations se font 6 mois avant la sortie des ouvrages. Donc là, vous voyez, nous sommes en train de préparer la sortie des ouvrages pour mars-avril prochain. Et puis, l'édition, c'est un difficile travail qui fait collaborer plusieurs corps de métier. Et il y a des ouvrages qui mettent 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans. Entre le moment où l'idée de l'ouvrage apparaît et le moment où on a l'ouvrage en main. Les ouvrages les plus... Vous voyez, par exemple, il y a 2 ans, nous avons sorti une histoire générale de la cathédrale de Rennes. C'est un projet qui a mis 10 ans à naître. Il faut écrire, il faut photographier. Et puis une fois que les textes sont écrits, une fois que les photographies sont sélectionnées, il faut trouver l'objet éditorial parfaitement adéquat. Alors ça en plus c'est un beau livre, grand format, tout couleur, avec emboîtage, etc. Ça ne se fait pas en 15 jours.
Mmh. J'imagine que la création de nouvelles collections ne se fait pas non plus en peu de temps. Est-ce que vous en envisagez des nouvelles aussi ou... Pas
alors, en ce moment, nous sommes en train de sortir les premiers volumes d'une collection que nous avons créée, qui s'appelle Pure Référence. Pourquoi Pure Référence ? Parce que c'est une collection de très gros ouvrages, apportés plutôt encyclopédiques, sur un objet, qui fait le point général sur un objet. Par exemple, nous allons sortir un ouvrage de droit sur le droit du littoral. C'est un gros ouvrage de 400 pages. Nous allons sortir dans le même temps, dans la même collection, un ouvrage sur le 6e siècle avant Jésus-Christ chez les Grecs. Là encore, c'est un très très gros ouvrage qui a mis du temps à naître et qui apparaît dans cette collection. Et puis il y en a un troisième qui va apparaître dans quelques semaines sur une histoire générale du réalisme dans le domaine des arts et de la littérature. Alors... Les collections se font selon une temporalité très longue, puisqu'il faut un objet de collection, il faut une identité et disciplinaire. Il faut un point de vue qui donne l'identité de la collection. Puis il faut des directeurs de collection. Ces directeurs de collection, ils font écrire des ouvrages. Et bah, vous savez, le propre d'un ouvrage, c'est que ça ne s'écrit pas là non plus en 15 jours. Un ouvrage est un long processus, j'en sais quelque chose. Une collection est un être vivant, si je puis dire, mais qui a une vie lente, longue. C'est le comité éditorial qui nomme les directeurs de collection. Et c'est le comité éditorial qui suit la vie de ces collections. 60 collections, ça fait à peu près 120 co-directeurs de collection.
Et quand on entend donc parler de gros ouvrages et de presse, donc de la presse universitaire de Rennes, on peut se dire que ce sont des ouvrages surtout dédiés aux universitaires et aux étudiants. En réalité,
c'est là toute la difficulté, c'est le défi des presses universitaires de Rennes. C'est vrai que notre mission de service public, c'est de publier la science la plus moderne, la plus actuelle, la plus exacte. Et notre cœur de métier, c'est la publication des ouvrages sortis des thèses que les docteurs viennent de soutenir, des ouvrages sortis des actes de colloque. Ça, c'est le travail principal, si je puis dire, central. Mais s'adjoint à cette mission, une mission plus large, qui n'a pas de frontières finalement, qui consiste à diffuser le savoir le plus loin qu'il est possible de le faire. C'est la raison pour laquelle l'Épure publie des ouvrages austères, des ouvrages scientifiques. Mais l'Épure font un gros effort pour publier des ouvrages qui puissent être compris même par ceux qui ne sont pas spécialistes des objets ou des disciplines dont ils traitent. Il est très très important que les ouvrages s'adressent au plus grand nombre. Alors, évidemment, à l'intérieur des 60 collections, il y a des collections qui sont plus ouvertes. C'est-à-dire, par exemple, nous avons créé il y a 2 ans une collection de livres de poche, petits livres d'un 128 pages qui font le point sur un objet un peu intéressant de la culture ou sur un problème de société. Et là, évidemment, l'exigence des auteurs, c'est de ne pas faire d'ouvrages trop compliqués, qui soient d'une grande rigueur intellectuelle, mais qui soient accueillants. Il faut accueillir les étudiants, mais les lecteurs grand public, en faisant de beaux livres, qu'on a envie d'ouvrir. Moi, mon métier, c'est de faire aimer les livres aux étudiants comme à tous les autres. Mais mon métier, c'est aussi d'instruire le plus grand nombre. En fait, le métier d'éditeur qui est le mien aujourd'hui, c'est le même que le métier de professeur que j'ai fait pendant toute ma carrière et que je continue à faire. Il s'agit de faire aimer le savoir et la culture. Il s'agit de donner, de permettre aux citoyens, quelle que soit leur position dans l'espace social, de permettre aux citoyens de comprendre son monde. Alors, le livre de poche, le livre de semi-poche, les beaux livres aussi, qui sont des livres rigoureux, mais qui sont richement illustrés et qui sont accueillants et séduisants par une illustration publiée, imprimée en quadrichromie, qui permet effectivement d'avoir un plaisir de lecture supérieur.
Et comment est-ce que vous éditez vos livres? Est-ce qu'il y a une façon particulière d'éditer les livres chez les purs ou...
Je crois que les purs fonctionnent comme n'importe quel éditeur. Nous recevons des manuscrits. Nous suscitons aussi des manuscrits. C'est la tâche des directeurs de collection ou même du directeur des purs. Nous expertisons tous les manuscrits. C'est-à-dire que ce qui fait la renommée des purs, c'est leur sérieux dans l'accueil des ouvrages, dans le traitement des ouvrages, dans le suivi des ouvrages, dans la réécriture des ouvrages. Et cette expertise, elle se fait à l'intérieur du comité éditorial qui nomme en son sein ou à l'extérieur de son sein un spécialiste de l'objet du livre en question. Et puis le comité éditorial accepte l'ouvrage ou le refuse. Et la plupart du temps, ils l'acceptent, mais avec des demandes de réécriture, des demandes de reconsidération. et nous faisons tout ce que nous pouvons au pur pour accompagner l'auteur dans sa réécriture ou dans la reconsidération de son projet. Par exemple, quand une thèse arrive, qu'elle fait 1 500 000 signes, c'est-à-dire 700 pages, il est bien évident que cette thèse, elle ne peut pas être publiée in extenso. Il y a des éditeurs qui publient des thèses dans leur jus, si je puis dire. Ce n'est pas, depuis 40 ans, ce n'est pas la mission que les purs se sont donnée. La mission des purs, c'est de faire des ouvrages. Il y a toujours loin de la thèse à un ouvrage. Les purs accompagnent les auteurs dans la recherche de l'iconographie, dans la recherche des crédits et des droits que l'on doit payer pour pouvoir éditer des images. Et puis les purs, comme n'importe quel éditeur, à un service commercial, s'adressent à un diffuseur qui fait connaître dans la France entière les ouvrages des purs en librairie. Et nous essayons d'avoir une politique de communication active par le site, par la newsletter, par l'organisation de rencontres en librairie, de conférences, pour que la science, le savoir, la pensée irriguent l'espace social.
Donc il y a des critères pour être publié dans cette maison d'édition.
Ah oui, il y a des critères. Le premier critère, c'est la qualité intellectuelle. Un ouvrage de recherche, il doit viser, c'est un gros mot, il ne faut pas s'en inquiéter, la vérité. Alors, je ne dis pas la vérité absolue, mais il doit viser la vérité sur tel ou tel objet, bien, de la réalité, et de la réalité culturelle et humaine, puisque les sciences humaines s'occupent de cela. Et puis cet ouvrage, il doit aussi user avec raison, avec méthode, et il doit donner au lecteur les outils pour vérifier que ce qu'il dit est vrai ou faux. C'est ça le critère d'un bon livre. Le critère d'un bon livre, c'est qu'ils disent quelque chose d'original sur la réalité, sur un élément de la réalité, qu'ils produisent du savoir sur cette réalité et qu'ils amènent des preuves de l'exactitude de son savoir. Et puis, en même temps, dans le même temps, il doit, présenter ce savoir de manière aimable, de manière accueillante, pour que les sciences humaines aient une utilité sociale. L'utilité sociale des sciences humaines, c'est de fournir aux citoyens des libertés, des instruments de connaissance et de liberté pour lui-même.
J'ai oublié ma question. Oui, vous nous parliez tout à l'heure de votre comité éditorial.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de votre politique éditoriale, s'il vous plaît ?
Alors, la politique éditoriale, elle tient à ce que je viens de vous dire.
Oui.
Il s'agit de publier l'ensemble des sciences humaines et sociales, de manière à ce qu'aucune ne soit oubliée. Bon, la science... privilégié au pur, c'est l'histoire. Pour une raison historique, ce sont les historiens, ce sont les chercheurs du département d'histoire de Rennes 2 qui ont créé les purs. Et c'est évidemment la collection qui comporte 1200 titres, hein, sur 6000, c'est beaucoup. J'ai l'habitude de dire, ça en agace certains, que la collection histoire, c'est le vaisseau amiral des purs. Mais évidemment, ce vaisseau amiral, il est entouré de corvettes, de sous-marins, d'autres petits bateaux plus petits, mais qui ont effectivement leur vie et leur intérêt, et qu'il faut développer. La politique éditoriale, elle est là. Publier l'Enscience des sciences humaines dans les conditions les meilleures. Et pour le profit du plus grand nombre. Des chercheurs, des étudiants, et du public le plus large. Et vous voyez bien, il faut que la science soit accueillante. Bon, il faut aussi des ouvrages plus faciles, plus pédagogiques, qui relèvent de la vulgarisation, qui relèvent de la valorisation, comme on dit. Mais de telle manière de faire comprendre que les ouvrages des purs, qui sont plus austères, sont moins difficiles que ce qu'on veut bien penser.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses.
Merci beaucoup Pierre-Henri Franck. Bon, encore bon anniversaire.
Merci. Bon anniversaire. J'aimerais bien avoir 40 ans.
On enchaîne avec la chronique d'Eva.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
Et oui, une nouvelle chronique à retrouver une fois par mois. C'est la chronique d'Eva qui s'appelle Take It or Leave It. La chronique qui explore la prog de syllabes, Eva.
What? C'est déjà l'heure de ma chronique. Aujourd'hui, on va un peu voyager jusqu'au jour, enfin, à un jour où vous découvrez une chanson que vous aimez, qui vous parle, qui vous anime. Vous avez les yeux ébahis, les zygomatiques en folie, les oreilles qui frissonnent et l'esprit emporté par un courant, par l'écoulement d'une chanson. Vous oubliez un peu le reste, vos pensées se démêlent et ce sentiment de joie, de colère ou de tristesse s'entremêle avec cette chanson et un lien se tisse. Étape 1, prendre ou take it. Plus précisément, vous attrapez cette chanson dans votre filet neuronal. Étape 2, l'enlever ou leave it. Enfin, pas encore parce que vous venez de l'attraper, mais plutôt étape 3. Vous découvrez une chronique appelée Take It or Leave It sur la radio C-Lab toutes les 3 semaines qui vous laisse découvrir les chansons que j'ai attrapées dans mon filet, celles que je garde avec moi et celles qui seront ajoutées à la programmation de la radio C-Lab. Pour clarifier, cette chronique a pour but de parler de chansons et artistes que je souhaite mettre en avant au sein de cette programmation musicale. Cette programmation étant décidée par un comité, je me ferai une joie également de parler des chansons appartenant à un filet commun qui nous touche tous. La chanson dont je me suis inspirée pour le titre de ma chronique, Take It or Leave It de Coin, un groupe américain d'indie pop rock, parle d'une relation où le protagoniste est indécis quant à son avenir. Veut-il la garder ou veut-il s'en séparer ? Il se questionne tout au long de la chanson sur sa relation. Mais la question qui revient le hanter, c'est cette question que personne ne souhaite entendre. Est-ce qu'on continue ou alors est-ce qu'on arrête ? Personnellement, ce qui m'a plu dans cette chanson, au premier regard, c'est l'instru derrière les paroles. C'est un esprit pétage de plomb qu'on retrouve principalement au refrain avec la présence vitale de cette guitare électrique et batterie qui vous emporte dans ces rapides. Les paroles du refrain, c'est pareil, c'est intense et ça s'allie très bien avec l'instru en folie. Je vous laisse t'écouter. Cette partie, c'est ma préférée. Très agréable à écouter quand on souhaite se défouler et péter un plomb à votre tour. Par contre, si vous pétez un plomb dans un moment inopportun, ce ne sera pas de ma faute. C'est celle de Take It or Leave It, prochainement dans vos playlists.
Merci Eva. Et oui, et c'est à entendre aussi sur les ondes de Syllab. Très bientôt. Au fait, ça vous dit de nous laisser un message ?
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Et oui, 6 heures avant minuit, à un numéro, on vous le laisse, c'est le 02 30 96 25 35. 02 30 96 25 35. Sur ce numéro, vous pouvez nous laisser plein de sortes de messages, des choses sur des faits marquants près de chez vous, peut-être une déclaration d'amour, peut-être un coup de gueule, ou alors un retour sur nos super reportages. En tout cas, n'hésitez pas à nous parler sur notre répondeur vocal. Il sera peut-être diffusé à l'antenne, qui sait. Je vous dis à demain. En attendant, merci Christeline pour la technique, et ainsi que Gwen. Aujourd'hui, elles étaient deux. Ouh, c'était super. À demain.
est-il ?
Il est 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du Dora !
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.